J'aime beaucoup les pommes, c'est un mangeur de pommes.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus.
Plat de résilience, présenté par Thomas Grostet et Rémi Pascal sur Radio B.
Salut Rémi!
Salut Thomas!
Et salut à tous auditrices et auditeurs! On se retrouve pour le nouvel épisode de notre série de podcast Plat de Résilience. Quelle belle journée, non?
Oula, mais tu m'as l'air en forme, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as hâte d'arrêter le podcast? Moi qui croyais qu'on s'amusait bien, Thomas.
Mais non, Rémi, enfin, comment peux-tu penser ça? Je donnerais tout pour écrire encore et encore plus d'épisodes.
Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait presque moi le mois dernier quand tu m'as dit qu'on allait parler de relocaliser l'alimentation.
Bah comme quoi, hein. On doit être un peu pareil. Moi aussi, c'est le sujet du jour qui m'a mis en joie ce matin. Enfin, plus précisément, c'est en m'enfilant la lecture du rapport sur l'agroécologie dans le monde pour le podcast.
L'agroéco quoi ?
L'agroécologie, Rémi, celle qui réglera tous nos soucis, celle qui relance la vie.
Oh là là, il commence avec ses rimes, c'est qu'il est vraiment heureux. En tout cas, vu dans quel état de joie ça te met, j'ai hâte de la suite. Bon alors, c'est quoi vraiment cette agroécologie? Pas encore une belle fumisterie de greenwashing, rassure-moi.
Alors là, pour une fois, j'ai le plaisir de t'annoncer que non. L'agroécologie, c'est l'ensemble des théories et des pratiques agricoles qui visent à produire de la nourriture tout en respectant au mieux l'environnement et les humains.
Ouais.
C'est la diversification des cultures, c'est le respect du sol avec l'arrêt de son labour systématique. C'est la réduction et dans certains cas l'arrêt des engrais de synthèse, des produits phytosanitaires, la substitution de ces produits par les amendements organiques et les produits de contrôle biologique, c'est la réintroduction de l'arbre dans les cultures avec l'agroforesterie, c'est la couverture permanente des sols avec
Thomas,
les couverts végétaux.
Thomas, tu pars dans ton niveau 3 d'enthousiasme là, le stade des envolées lyriques. Attends, la dernière fois que ça t'est arrivé, rappelle-toi, c'est quand tu m'as parlé des champignons et de leur fonctionnement écologique. Et quand j'ai réussi enfin à t'arrêter, rappelle-toi bien, t'étais monté sur la table du bar et tu chantais, hein.
Ouais. Bon, j'avoue, ce soir-là, j'avais perdu le contrôle. T'as bien fait de m'arrêter, je vais te la refaire plus doucement.
Ouais, ce serait cool pour les auditrices et auditeurs. Parce que bon, moi, j'ai un peu compris quelques mots. Je te connais depuis longtemps, mais tu nous as envoyé pas mal de choses compliquées, là. Ça va peut-être te frustrer un peu, mais va pas falloir s'étaler sur le sujet. On n'a que 15 minutes. Bon, allez. Je te guide, t'as déjà commencé par parler de diversification des cultures. Tu peux nous en dire plus ?
Oui, bien sûr. La diversification des cultures, c'est une des bases des pratiques agroécologiques. Ça consiste à diversifier ces cultures dans l'espace et dans le temps. Et ça passe par plusieurs stratégies en fonction du système de culture sur lequel tu travailles.
C'est-à-dire ?
Alors, ça veut dire que dans les cultures céréalières, ça passe par des rotations plus complexes, intégrant plus de cultures dans les légumineuses, ou la réintroduction de l'arbre même dans les champs, l'installation de haies sur les bords de champs aussi. Dans les cultures maraîchères, c'est la diversification de la production de plusieurs espèces dans les mêmes espaces, en cherchant des synergies entre les espèces choisies. Et dans la production de fruits ou de vignes, par exemple, c'est l'introduction de couvertures végétales au milieu des rangs et en bord de champ aussi. Introduire de la diversité dans les espèces cultivées peut aussi aider. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que la diversification, elle peut se faire à plusieurs niveaux, à l'échelle du champ, de la ferme ou même du territoire.
On produit des plantes un peu partout et tout le temps. Mais en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier à l'échelle d'une ferme, ça doit permettre déjà de diversifier tes revenus. Et par exemple, de mieux encaisser un problème sur une culture, comme une maladie ou un gel.
Carrément. Et de manière générale, à l'échelle des fermes, des territoires, la diversification des cultures est largement reconnue comme ayant de nombreux bienfaits sur d'autres aspects. La résilience alimentaire du territoire en général, la réduction de la pauvreté rurale, la limitation de la propagation des maladies et des ravageurs qui, en fait, se propagent très vite dans des territoires où la même culture est pratiquée sur des kilomètres carrés. Ça favorise aussi une plus grande diversité, biodiversité, et permet dans certains cas de limiter les intrants comme les engrais de synthèse.
Ah oui, avec la réintroduction des légumineuses, par exemple, dans la rotation, donc c'est des plantes qui arrivent à fixer naturellement l'azote de l'air, hein, si j'ai bien compris, donc la luzerne, le pois, la févrole, le trèfle, ben, avec ces associations, on peut les mélanger tous ensemble, et ces plantes, elles font des associations en fait, avec les bactéries du sol, et ça permet naturellement de fertiliser le sol en azote.
C'est la magie de l'association en symbiose des légumineuses avec les bactéries rhizobium. Ça me met dans tous mes états tellement tellement c'est
bon. Oh là là. Bon, la diversification, ok, c'est compris. Mais alors, c'est quoi ce truc sur la réduction du travail du sol? Il me semblait que c'était important de retourner le sol. Hein. Je me souviens que dans notre 7e podcast, jadis, on parlait des impacts de l'agriculture sur le climat et les sols. C'est en lien avec les questions d'érosion, non?
Bah exactement. Comme t'as l'air d'ailleurs de bien te souvenir, là, essaie de me redire ce que c'est l'érosion.
Je prends même mon ton intello. L'érosion, c'est la perte directe du sol qui, quand il est déstructuré sous l'action de l'eau par des parcelles, enfin, la terre, hein, par des parcelles pour aller vers les rivières. C'est ce qui fait que les rivières sont marrons après les orages, alors que ça ne devrait pas être le cas si les sols étaient en bonne santé et toujours couverts. On disait même que 1 mm de pluie pouvait arracher jusqu'à 100 kg de terre par hectare. C'est énorme!
Et ouais, bah je m'attendais pas à une réponse si complète. Pour se faire une idée, on avait même dit que ça pouvait représenter 4 tonnes à 17 tonnes par hectare de perte de terre par an. Alors ça t'explique en partie pourquoi la réduction, voire l'arrêt du travail du sol est une pratique agroécologique. En fait, le labour et autres travaux de sol déstructurent les particules, inversent les couches de fonctionnement du sol, ont un fort impact sur la biodiversité, avec les vers de terre, ce qui est visible ou invisible avec les champignons.
Mais alors ça sert à quoi du coup de labourer ?
Mais en soi, ça sert à préparer le sol pour le semis. Ça sert aussi à aérer temporairement le sol, à dégrader plus vite ce qu'on appelle la matière organique, via le processus appelé la minéralisation. En gros, c'est tes bactéries et tes champignons qui dégradent les matières en décomposition. Et tout ça, ça libère des éléments nutritifs pour tes plantes, mais ça libère aussi du CO2, parce que toute cette petite faune et toute cette microfaune, elle respire. Et donc, ça libère du CO2 dans l'atmosphère, ce qui, finalement, entraîne du déstockage de carbone et donc de l'augmentation des taux de CO2 dans l'atmosphère. Mais pour la partie nutrition, tu peux le voir comme un boost de fertilité pour le sol. Le problème, c'est sûr que le long terme, eh ben, la dégradation de cette matière organique fait perdre, quand elle est trop forte, fait perdre en fertilité le sol et libère trop de CO2 dans l'atmosphère, participant donc au réchauffement climatique.
Ah ouais, je vois. Et donc, pour s'en passer, c'est quoi les solutions ?
Mais je t'en parlais tout à l'heure. C'est l'utilisation des couverts végétaux d'interculture et, de manière plus générale, de la couverture permanente des sols. Tu utilises des plantes que tu sèmes dans les périodes où tu n'as pas de culture ou, par exemple, en arboriculture et viticulture, dans les endroits où tu n'as pas spécialement ta culture, c'est-à-dire entre les rangs d'arbres ou de vignes. Ces plantes, elles vont aider à effectuer le travail du labour via les racines et elles vont nourrir le sol, les vers de terre, les champignons. Tout ça, ça amène à améliorer sa capacité à filtrer et à retenir l'eau. Et en plus, ça stocke du carbone dans le sol. Donc, c'est quand même vraiment positif à ce niveau-là. Tu limites l'érosion. Tu peux aller jusqu'à ressemer ta culture directement dans les résidus de couverts végétaux que tu vas ensuite broyer. C'est ce qu'on appelle le semis direct sous couvert végétal. Tu arrives à ce stade où le labour, le travail du sol mécanique en tout cas, n'est même plus nécessaire pour assurer la levée de tes graines.
Mais ça veut quand même dire que tu produis des plantes que tu ne consommes même pas. Ça doit te faire perdre de l'argent, non ?
Mais en réalité, non, pas forcément. Faire pousser ces plantes permet de limiter l'utilisation du tracteur et donc du pétrole. En utilisant des légumineuses dans les mélanges, ça te permet de fertiliser en azote, comme on l'a vu, et de retenir d'autres éléments, donc de réduire tes charges en engrais sur ta culture. Puis ça a des effets sur le plus long terme, sur la durabilité de la santé du sol. Pas de perte par l'érosion, meilleure rétention et infiltration en eau, et donc résilience aux sécheresses, par exemple. Je t'en passe, c'est des meilleurs.
Ah ouais, je commence à comprendre. Et du coup, tu as aussi, via la diversification des cultures et le remplacement du travail du sol, des effets indirects sur la réduction des intrants comme le pétrole, les engrais et aussi les produits phytosanitaires. Enfin, t'en utilises moins, en gros, car tu as moins de risques d'avoir des propagations importantes de pathogènes. Donc, c'est ce que tu disais, tu parlais de l'utilisation de produits alternatifs au début du podcast. Donc, tes sols, tes plantes sont en meilleure santé, tu utilises moins de produits et en plus, tu vas remplacer des pesticides par certains produits alternatifs. Mais ça rentre aussi dans les pratiques agroécologiques, ces produits-là ?
En fait, oui, il ne faut pas le nier aujourd'hui. L'utilisation des engrais ou des produits phytosanitaires, les pesticides, reste un gros levier pour améliorer les rendements en agriculture. Même si la fertilité naturelle d'un sol permet de produire durablement de la nourriture en quantité respectable, dans l'agronomie aujourd'hui, on nous demande des productivités élevées. Et dans certaines situations, l'utilisation de produits qui sont composés, par exemple, soit de bactéries, de champignons vivants, ou alors de molécules organiques, en remplacement des pesticides ou des engrais peuvent avoir certaines fonctions. Tu y retrouves les produits de biocontrôle, qui sont des produits permettant de limiter préventivement ou curativement le développement des maladies. Ce sont des produits finalement qui ont des fonctions un peu fongicides ou insecticides et qui remplacent les pesticides avec des effets moins délétères que, les produits chimiques sur les écosystèmes. Et puis, les produits dits de biostimulation qui, eux, permettent de stimuler temporairement la croissance des plantes à des moments clés ou d'accélérer la régénération de sols très dégradés en réintroduisant des micro-organismes bénéfiques.
Ça fait partie des solutions pour accélérer la transition, pour avoir des sols et des écosystèmes plus fertiles, donc qui sont moins malades, qui se nourrissent mieux tout seuls, en fait. Mais d'ailleurs, sur les choses que tu peux apporter dans les champs, il y a aussi le compost, non ? Le fumier. Je me rappelle de mon grand-père qui mettait à côté de ses pieds de tomates du fumier. C'est agroécologique, ça, non ?
Ah bah alors là, tout à fait. La restitution des matières organiques au sol, de manière locale, est aussi un levier ultra important. Une des autres raisons de la perte de fertilité des sols et de leur épuisement via le manque de restitution de ces fameuses matières organiques, on fait pousser du blé pendant 15 ans, par exemple, il va pomper des éléments nutritifs, on fait partir de la matière en labourant, comme on l'a vu, et puis on se laisse les sols nus. Et en fait, on exporte toute la matière. Les grains, ils vont partir pour notre alimentation, les pailles du blé pour les bêtes, et au final, tout ce qui a poussé in situ, qui a retiré des éléments nutritifs au sol, qui a épuisé le sol, ne va même pas y revenir. Donc, pouvoir, dans des cycles courts, restituer les matières des animaux, comme le fumier, ou le lisier, ou des matières végétales et animales compostées, est un fabuleux levier pour boucler la boucle. On finit par redonner à manger au sol ce qu'on lui a pris. Et attends, un jour, hein, faudra aussi parler de restituer l'ensemble des matières humaines. Hein. T'as construit tes toilettes sèches, toi, d'ailleurs ?
Non, non, pas encore, mais c'est dans les projets, hein, rassure-toi. Je suis d'ailleurs en train de me faire des petites fiches et des listes de choses, et j'aime bien les listes. Tout ce qu'on a dit dans les podcasts, là, je vais les afficher dans mes toilettes, comme ça j'aurai tous les points importants, histoire de ne rien oublier. Tu me fais un débrief d'ailleurs ?
Bah écoute, je crois que c'est même toi qui vas me le faire. J'espère que t'as écouté.
Ouh là là, tu veux que je fasse un récap de tout là ?
Bah ouais, je pense que t'es chaud, non ?
Ouais. Bon allez, 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 je le tente, hein, je le tente.
Bon allez, ok. Toi qui aimes bien dresser des listes, je te préviens, tu vas lister là. On commence soft. Cite-moi 5 leviers techniques majeurs de l'agroécologie.
J'ai l'impression de retourner en cours. Ok, facile. 1. Diversification des cultures. 2. Je limite, voire j'arrête de travailler le sol. 3. Je protège mon sol, je lui donne à manger, comme ça il stocke du carbone et il a beaucoup de fertilité. Ensuite, quatrièmement, je fais de l'agroforesterie, j'ai des haies autour de mes parcelles. Et puis enfin, je réduis, voire je supprime l'utilisation d'engrais ou de pesticides.
Tu pars sur un sans faute là, Bon, allez, maintenant, bien rigolé, maintenant, cite-moi 4 effets facile. Environnementaux directs de la mise en place de ces pratiques.
Eh ben, facile. 1. Le stockage de carbone. 2. La fertilité. Je l'entretiens dans mes sols. Avoir de la fertilité dans ces sols, ben, c'est super, comme ça je peux produire des plantes toute la vie. 3. Je protège mon cycle de l'eau. 4. J'ai moins de stress, moins de maladies, moins de sécheresse. Et puis enfin, je protège ma biodiversité.
C'est magnifique. Il continue sur sa lancée. Des effets plus indirects maintenant, là, sur l'environnement maintenant. Tu m'en fais 2, là.
Ok, facile, facile. Réduction de l'utilisation du pétrole. J'utilise moins le travail de sol, moins d'engrais, moins de pesticides. Et puis dernièrement, je réduis les transports, puisque je produis maintenant plus de choses sur place et j'ai moins besoin d'importer de la nourriture.
Et c'est un sans faute, mais l'agronome français est en roue libre. Il s'envole vers un titre. Pour finir, bon... On a commencé par l'aborder, mais là, je pense que je vais te sécher. Saurais-tu me donner des impacts sociaux, alimentaires plus globaux de ces transitions de pratiques ? Parce qu'on parle beaucoup technique, là, mais qu'est-ce que
ouais,
ça fait ?
Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Je prends un peu plus de recul. Eh bien, j'ai une nourriture plus diversifiée. Les gens, ils consomment moins de pesticides. Ils sont en meilleure santé. Puis, je produis une nourriture plus locale. Ensuite, j'ai une meilleure santé pour mon environnement. Les agriculteurs et les agricultrices manipulent moins de produits dangereux, donc ils sont en meilleure santé. Et puis, j'autonomise. Justement, les fermes, elles sont plus autonomes qu'avant.
C'est le sac de l'agronome, mais tu me surprendras toujours. Il est prêt pour évoluer vers le stade de l'omniscience agroécologique. Il aurait pu nous écrire l'ensemble des rapports nationaux et mondiaux qui parlent des pratiques agroécologiques et de leurs effets positifs sur l'environnement, l'alimentation et l'aspect social.
Mais attends, parce que ce n'est pas sorti de ton univers utopique tout ça, tout ce que tu viens de nous dire ?
Eh non mon cher, je le sais bien, je rêvasse, je m'imagine les meilleurs scénarios pour notre belle planète et ses habitants. Mais j'aime aussi pas raconter n'importe quoi. Hein. Tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui a été étudié à l'échelle des territoires, des fermes et même du monde, et fait l'objet de nombreux rapports très détaillés de l'INRA en France, de Commission européenne, de l'ONU.
Et on pourra relire tout ça dans les sources du podcast, comme d'habitude, bien sûr.
Bah, bien sûr, Rémi, enfin, j'allais pas louper ça. Vous pourrez retrouver toutes ces sources sur le lien du podcast sur le site de Radio B.
Bon bah super, je vais me presser d'aller creuser tout ça. En plus, ça va m'aider, je suis en pleine écriture du prochain podcast sur la juste rémunération des agricultrices et des agriculteurs. Et mon petit doigt me dit qu'il va y avoir des choses intéressantes, comme par exemple le lien entre agroécologie et meilleure rémunération ou conditions de travail.
Et en plus d'être bon sur les interros, il est visionnaire. Bon allez, on vous embête pas plus. Merci d'avoir suivi cette chronique sur Radio B. C'était Thomas Grostette
et Rémi Pascal.
J'aime beaucoup les pommes, c'est un mangeur de pommes.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus.
Plat de résilience, présenté par Thomas Grostette et Rémi Pascal sur Radio B.